remercier bien sûr les organisateurs de m'avoir convié aujourd'hui pour vous parler donc du sujet que je vous propose, femmes, amour et mariage, dans la Signorita Madrigliana et la Morgata. Les deux pièces, dont les titres mettent en avant les personnages féminins, servent à illustrer principalement une même thèse, l'importance de l'éducation pour les jeunes filles, avec pour objectif de faire d'elles des femmes accomplies dans une perspective éclairée. Je vous propose donc aujourd'hui d'analyser les images de la femme que suggère la Signorita Madrigliana et la Morrigata et de voir comment elles s'inscrivent dans le projet de société des Ilustrados, parmi lesquels bien sûr on peut ranger Iliade et Molatine, en nous appuyant sur deux thèmes, l'amour et le mariage. Donc, dans un premier temps, je vais m'intéresser au personnage féminin et à l'image de la femme qui véhicule, pour ensuite envisager l'amour comme prétexte au mariage, pour enfin, dans un dernier temps, vous interroger sur la double conception du mariage qui filtre de ces deux œuvres et qui pose la question de la place de la femme dans la société, de la place des femmes dans la société de la fin du XVIIIe siècle. Donc le premier point, ce serait une certaine image de la femme. Les titres des deux œuvres, première annonce de l'auteur, les inscrivent dans la tradition de la comédie. L'un évoque un caractère, la Morrigata, tandis que l'autre suggère une condition sociale, la Signorita, toutefois précisée par un adjectif, Madrigliana, qui élève la jeune fille de qualité au rang de caractère. Dans un même mouvement, ces personnages féminins sont connotés négativement, et le spectateur-lecteur sait qu'il va avoir à l'œuvre deux héroïnes négatives ou anti-héroïnes. Une enfant gâtée et mal élevée au sens qu'elle n'a pas reçu une éducation conforme à sa condition sociale, et une hypocrite, la fausse dévotion n'étant qu'une seule des manifestations de sa duplicité. La Signorita Madrigliana ajoute en outre une dimension sociale à la vision négative de la femme qui va être proposée, puisque Signorito, Signorita ne s'utilise que pour désigner les enfants des élites, noblesse et bourgeoisie. Iliade et Moratine adoptent donc le même schéma initial, donner à voir l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais la mise en œuvre dans les deux pièces est différente. Iliade flanque son héroïne de deux personnages féminins plus âgés, Doña Clara et Doña Ambrosia, alors que Moratine choisit de placer à côté de son héroïne un personnage du même âge, sa cousine Doña Inés. Dans chacune des pièces, ces différents personnages fonctionnent en réseau, dans la mesure où ils viennent compléter et ou éclairer le personnage principal. Commençons par la Signorita Madrigliana. Le statut de personnage principal de Doña Pepita est conforté par le fait qu'elle apparaît en tête de la liste des personnages et parce qu'elle est le premier personnage de la maisonnée évoqué par les deux paysans Bartolo et le tio Pedro dans la salle d'exposition. D'abord appelée la Signorita, elle est ensuite désignée comme la Pepita de façon familière et comme s'il s'agissait d'une des marras présentes au début de la pièce. Elle a plus de 20 ans, et du point de vue des deux hommes, il serait plus que temps qu'elle se marie. La flûte, que ça y est, un poco en la. Il dresse le portrait critique d'une jeune fille écervelée, aimant à se divertir. Et en brossant le portrait de la jeune fille, les deux compères exposent également les thèmes principaux de la pièce, l'éducation et le mariage. Le portrait de la jeune fille se complète ensuite au fil des interventions des différents personnages. Ainsi son père... Le portrait de la jeune fille se complète ensuite au fil des interventions des différents personnages. Son père, donc Gonzalo, en donne une image plus précise en évoquant son mode de vie complètement oisif, et qu'il trouve cependant tout à fait approprié pour une jeune fille de sa qualité. C'est là un point de vue que ne partage pas sa sœur, Doña Clara, tante de Doña Pepita, qui considère qu'elle est frivole et impudente et qu'elle ne dispose d'aucune des qualités qui feraient d'elle une femme convenable. Bien que nuance ensuite par Don Eugenio, un des prétendants de la jeune fille, qui considère que Doña Pepita a des qualités naturelles qui ne sont pas exploitées, tiene una potencia muy clara, un corazón muy benigno. Le portrait négatif de la jeune fille se trouve confirmé par la première apparition de celle-ci. Vêtue en marra, sans aucun respect pour ses aînés, aimant danser et jouer, elle est impulsive, coléreuse, capricieuse et se montre grossière, exigeante et violente avec les domestiques, ce qui confirme sa mauvaise éducation. Et on pourrait penser, par exemple, au discours sur l'éducation physique et morale de José Farmani Borbón, publié en 1790, où elle dit précisément « Sea cual fuere el motivo de reñirlos, a los criados, jamás se ha de usar de palabras ásperas y menos injuriosas. » La liberté de ton de Doña Pepita et les choix affirmés qu'elle ont fait ont incité Andioc à voir en elle un exemple de martialidad. Je ne vais pas insister sur ce point-là, puisque ça a été largement étudié. Le deuxième personnage féminin de la liste des personnages est Doña Ambrosia, d'abord déterminée par son âge et sa condition, viuda joven, ainsi que par l'exposition de ses liens avec le personnage principal. Elle joue en quelque sorte le rôle de confidente. Le portrait brossé ensuite dans la scène 2 par Bartolo fait d'elle une femme manipulatrice qui a pris le contrôle de la maisonnée en agissant comme le ferait une maîtresse de maison. Bartolo et le tio Pedro la jugent cupide et se méfient d'elle. Au contraire, pour Don Gonzalo, elle est parée de toutes les vertus. Aunque moza es una dama de juicio y talento, viuda y de muchas circunstancias, para mí es un grande alivio. Un point de vue qui est aussitôt contredit par le tio Pedro, para ella c'est la ganga. Âgée d'une trentaine d'années, comme elle l'avoue elle-même plus tard, elle a perdu son mari et sa fortune à cause d'un escroc, donc à la recherche duquel est parti son neveu, Don Carlos. Doña Clara, troisième personnage féminin, est présentée comme una señora de caractère serio. Outre le fait qu'il est fait état de sa condition de femme mariée, elle est présentée comme la voix de la sagesse. Je vous renvoie aux définitions de l'exonère de 1803. Donc, serio, grave, sentado y compuesto en las acciones en el modo de proceder. Mais étant donné le prénom choisi pour ce personnage, il convient de retenir également un autre sens de serio qui est real, verdadero y sincero, sin engaño o burla, doblez o disimulo. Sœur de Gonzalo, elle semble être son exact contraire, avec l'opposition au serio alegre. Et la description qu'en font Bartolo et le tio Pedro dans la scène 2 est rapide, mais synthétise ses principales qualités. Aquella es muy guapa, una santa señora, así fueran todas. Elle apparaît comme un modèle que devrait imiter la jeune Doña Pepita, mais que celle-ci rejette parce qu'il ne correspond pas aux façons de vivre à la mode, comme le souligne le marquis de Fontecalda. Ah, no existe una mujer más secadora, montada a la antigua, misántropa, y sin una idea exacta del buen tono y del gran mundo. Doña Pepita est donc rapprochée de deux modèles féminins plus âgés, celui de Doña Ambrosia, celui de Doña Clara, qui ont été ou sont mariés, et qui apparaissent de fait comme deux projections de ce que pourrait devenir la jeune fille. Cela est affirmé, confirmé par le fait que ces deux figures féminines ont joué successivement le rôle de mère de substitution auprès de la jeune orpheline. À la mort de sa mère, femme sérieuse et stricte, Doña Pepita, alors âgée de 10 ans, a été prise en charge par Doña Clara, la sœur de son père, pendant 6 ans, jusqu'à ce que le caractère rebelle de la jeune fille devenue adolescente ne vienne remettre en cause l'autorité et l'éducation données par sa tante. Ne se sentant pas soutenue par le père de la jeune fille, Doña Clara préfère se retirer et interrompre toute relation. C'est précisément alors qu'entre en action une jeune femme nouvellement installée dans le voisinage, Doña Ambrosia, qui prend le contrôle de la situation, se rendant indispensable tant au père qu'à la jeune fille. L'influence conjointe de Don Gonzalo, joyeux noceur et père irresponsable et négligent, et de la jeune veuve tout aussi désireuse de se divertir, en fait, Doña Pepita, la parfaite marra, jeune fille à la mode et d'une apparente extrême futilité. Au moment où commence l'action, Doña Pepita, arrivée à l'âge adulte, doit se marier. Elle ne semble pas avoir d'autre alternative. Elle est en quelque sorte à la croisée des chemins et pour l'aider dans son choix, deux modèles et donc deux voies s'offrent à elle. Doña Clara et sa vie rangée et sérieuse auprès d'un mari compagnon, et Doña Ambrosia et sa vie libre et festive aux côtés d'un mari associé, on pourrait dire au sens économique et juridique du terme. N'oublions pas que Ambrosia veut se faire épouser par Don Gonzalo. Iriarte propose donc un schéma que l'on pourrait qualifier de ternaire et qui présente l'avantage de maintenir un certain suspense. Dans la Morrigata, Moratín opte pour un schéma binaire qui renouvelle le rôle traditionnel de la jeune fille en âge de prendre état, la dame. Et en opposant l'exemple et le contre-exemple, il propose au public deux personnages, Doña Inés et Doña Clara, qui sont comme les deux déclinaisons possibles de la jeune fille des classes moyennes aisées. Cela lui permet en outre d'évoquer les deux états envisageables pour une jeune fille, le couvent ou le mariage. Et on pourrait à nouveau ici penser à Josefa Mari Borbón, qui envisage donc deux états pour la femme, celui de monja ou de casada, et elle rajoute una soltera et son cero. Contrairement à ce que nous trouvons dans la señorita malcriada, c'est Doña Inés, et non la morigata du titre, qui est évoquée en premier dans la liste des personnages, puis au travers du dialogue de la scène d'exposition. Son personnage est dans un premier temps construit par ce que disent d'elle, sans la nommer, puisque son nom n'apparaît qu'à la page 109 de l'édition de Keats, son oncle et son père. Elle est déterminée par rapport à ses liens familiaux, puisqu'elle est d'abord nièce d'eux et fille d'eux. Mi sobrina, su padre. Elle apparaît ensuite comme niña, un âge de prendre état, ici le mariage. Et c'est là une façon de la placer dans une situation de dépendance par rapport aux hommes. D'abord en l'inscrivant dans une généalogie paternelle, puis en évoquant son mariage futur. C'est-à-dire qu'elle ne semble pas avoir d'espace de liberté ou d'autonomie, d'autant que la question de l'autorité paternelle et du libre arbitre est posée dès la scène d'exposition. Moratín joue avec le spectateur en introduisant une certaine ambiguïté. En effet, la description que fait d'elle Don Martín pourrait laisser croire au public que Doña Inés est mal élevée, comme le souligne d'ailleurs Don Luis. La vision négative de Doña Inés, donnée par son oncle et rectifiée par son père, qui dresse d'elle le portrait de la jeune fille parfaite selon les canons éclairés. Vertu, pudeur, retenue, modestie et piété. Ce serait confirmé dans l'acte 2 par Don Claudio, le prétendant potentiel, qui n'éprouve aucun intérêt pour la jeune Doña Inés, mais qui reconnaît toutefois qu'il n'a aucun reproche à lui faire. Ella es muy buena muchacha, muy honrada, no lo niego. Doña Inés est franche et sensible, elle pleure lorsqu'elle est confrontée à l'injustice. Elle se montre généreuse et magnanime dans la dernière scène lorsqu'elle se déclare prête à partager l'héritage avec sa cousine. Donc Moratín fait d'elle la jeune fille idéale et la vision de la femme qu'il offre au travers de ce personnage correspond en tout point aux exigences des ilustrados telles qu'on peut les retrouver dans les traités plus théoriques comme celui que j'ai déjà cité dans Mari Borbón ou dans des œuvres de fiction comme les romans sentimentaux de Pablo Neruda. Cependant, pour que sa démonstration soit plus convaincante et pour que la figure exemplaire soit mise en relief, Moratín donne le rôle principal à la jeune fille qui est en fait le contre-exemple et qui devient ainsi le modèle de ce qu'il ne faut pas faire ou être. La construction en parallèle des deux personnages rend la démonstration plus didactique. En effet, Moratín reprend la technique de la vision contrastée déjà utilisée pour Doña Inés afin de dresser le portrait de Doña Clara. Elle est d'abord suggérée comme modèle dont devrait s'inspirer sa cousine, comme le précise Don Martín. Cependant, la vision positive qu'il donne de sa fille est immédiatement déconstruite par Don Luis. Et celui-ci met en évidence la duplicité du personnage, permettant de la faire au spectateur d'identifier Doña Clara comme la morigata du titre dans un va-et-vient entre ce qu'elle feint de faire quand elle est observée et ce qu'elle fait lorsqu'elle est seule. Ayuna cuando la observa su padre, cuando se va, se abalanza la despensa y se desquita, etc. Don Martín complète involontairement le portrait négatif de sa fille en voyant, dans la vocation supposée de celle-ci, la preuve de ses qualités et de son excellence morale. Il ne peut croire en l'hypocrisie que suggère son frère, mais en la rejetant, il dévoile en creux les caractéristiques essentielles de la jeune fille. Y sobre todo pensar que su disimulo llega tanto que siendo alegre y revoltosa e inquieta solo por disimular en un convento se encierra, para siempre es un delirio que solo tú dijeras. Le nom du personnage, Doña Clara, apparaît enfin, et la transparence qu'il dénote est contredite par ce qui a été exposé auparavant, renforçant de fait l'hypocrisie du personnage et faisant de cette duplicité sa caractéristique essentielle. Moratín prend soin toutefois de bien souligner le fait que le principal responsable de cette hypocrisie est le père de la jeune fille et que tout le mal découle de la mauvaise éducation reçue, bien peu conforme aux principes éclairés. En effet, Don Luis souligne les qualités naturelles de Doña Clara, visibles lorsqu'elle était enfant. Mostró Clara buenas prendas, era dócil, oficiosa, alegre, sencilla, honesta, mais qui ont été gâchées par l'autoritarisme de Don Martín et son éducation arbitraire et oppressive. En opposant les deux personnages féminins, Moratín donne à voir à la fois ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas être, de manière très clairement didactique. Si on rapproche les différentes figures féminines présentes dans les deux œuvres, un certain nombre de points communs se dégagent. La femme qui est envisagée est la femme de qualité dont la destinée est contrôlée par les hommes, d'abord le père, puis le futur mari. L'éducation qu'elle doit recevoir a pour finalité première de faire d'elle une maîtresse de maison, comme le suggère le rôle que joue Doña Ambrosia au sein de la maison. Dotée de qualités naturelles indéniables, mais tout aussi naturellement influençables, la jeune fille doit être bien éduquée, avec fermeté et douceur, pour devenir une femme accomplie. Si ce n'est pas le cas, elle prendra de mauvaises initiatives ou se laissera berner par ceux qui cherchent à abuser d'elle et de sa position, causant ainsi son malheur et celui de sa famille. Ces éléments s'inscrivent dans le droit fil de la pensée éclairée et les réflexions sur l'amour et le mariage qui accompagnent cette présentation en positif ou en négatif de la jeune fille idéale apparaissent comme une mise en exemple des bienfaits d'une éducation éclairée. Donc, comme nous venons de le voir, le seul avenir envisagé pour la majorité des femmes de qualité est le mariage. Donc, en fait, maintenant, c'est le lien entre l'amour et le mariage. Traditionnellement, dans la littérature, l'amour est venu justifier ou fausser ce qui était avant tout, dans la réalité des faits, un contrat entre deux familles. Et cela apparaît clairement au début de la Morrigata avec les rapprochements entre Don Pedro, le père de Don Claudio, et Don Luis, père de Doña Inés. Toutefois, sous l'influence des idées éclairées, on note, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, une volonté de l'État de limiter les mariages d'intérêt. Et on pourrait penser, par autre exemple, au caprice 14 de Goya, Que sacrificio, que je pense que vous connaissez tous. Et c'est vraiment en ce sens qu'il faut lire la Pragmatica Sanction sur le mariage du 23 mars 1776, qui impose le consentement paternel pour les unions, mais qui préconise des matrimonios justos y honestos ou matrimonios racionales y justos, c'est-à-dire des unions équilibrées en fortune, en position sociale, mais aussi on peut le penser en âge. De plus, le texte prévoit des garde-fous aux excès possibles du consentement paternel. On ne peut obliger les jeunes à se marier contra su voluntad, sin la debida libertad y recíproco afecto de los contrayentes. Il ne fait pas de doute que ce sont les mariages d'intérêt qui sont ici rejetés, alors qu'une certaine forme d'amour, ou plutôt d'inclination, suggérée par el afecto, ainsi que la libre volonté, sont nécessaires. Du point de vue des illustrados, il vaudrait mieux en effet parler d'inclination plutôt que d'amour, l'amour plus romanesque, tel qu'il s'exprime dans la littérature sentimentale ou larmoyante. On peut voir la critique de la mauvaise influence de ces lectures sur les jeunes filles dans les deux pièces, dans la mesure où les clichés que véhiculent ces romans sentimentaux viennent fausser la représentation que les jeunes lectrices se font de l'amour et du mariage. Dans la Morrigata, Doña Clara, tout comme elle feint la dévotion, à partir des livres qu'elle lit, imite en matière d'amour ce qu'elle a lu, comme le suggère la reprise de stéréotypes. Ainsi décrit-elle à sa servante Lucia les supposées manœuvres d'approche de Don Claudio. Se sentaba junto a mí, me miraba con terneza, y al descuido me tiraba al levantal, de manera que, aunque nada me decía, yo, como no soy muy lerda, ayer mismo me cogió, sin que nadie lo advirtiera, esta mano, y la apretó tanto y dijo, ¡ay, Clara Bella, de mi corazón! Plus loin, elle parle des feux de l'amour, elle parle del fuego de amor. Alors que cette passion est clairement présentée comme opportuniste, dans la mesure où elle n'est qu'un prétexte pour échapper au couvent. Ces lectures, non encadrées, ont donné à Doña Clara la référence de l'amour contrarié par les pères abusifs et du mariage clandestin, si fréquent dans la littérature sentimentale. Et ce sont ces arguments-là qui la poussent à s'engager dans ce mariage sans réfléchir aux conséquences. On a la démonstration, par l'exemple, des effets pernicieux de lecture mal choisie. Dans la Señorita Malcriada, la critique de lecture sentimentale se fait de façon plus indirecte. En effet, Doña Pepita dit clairement qu'elle ne croit pas à l'amour tel qu'il est évoqué dans les romans ou les comédias, un amour qui ferait perdre l'appétit et le sommeil. Mais elle a malgré tout une vision faussée. Elle se sent flattée par le fait d'avoir deux prétendants entre lesquels choisir, mais semble considérer l'amour comme le nom que l'on donne à une sorte d'entente prénuptiale. Ces deux prétendants sont bien dissemblables. L'un, Don Eugenio, correspond en tout point au mari idéal selon les critères éclairés, tandis que l'autre, le marquis de Fontecalda, est l'exemple même du petit maître, avec comme facteur aggravant le fait que l'on ne sache rien de lui et qu'il ressemble fort à un aventurier. Au travers de ces deux prétendants et de leur relation à Doña Pepita, Iriarte décrit deux conceptions de l'amour. Don Eugenio, l'exemple même du parfait hombre de bien selon les critères illustrados, fait de l'estime le socle de l'amour. Pienso que la señorita desde luego asegura su dicha y la del esposo que deseara con ansia, más que amar y ser amado, poder estimar lo que ama. Cette estime est de l'amour lucide, capable de voir les défauts de l'autre et d'essayer de les corriger. Cette position est rejetée par Doña Pepita, qui ne comprend pas comment on peut aimer quelqu'un et critiquer sa façon d'être, alors que pour Don Eugenio, cette distance critique est justement le signe d'une inclinación verdadera, seule capable d'être source de bonheur, il parle de felicidad completa. Pour appuyer cette idée d'un amour raisonnable, Don Eugenio développe deux conceptions de la passion amoureuse. Señorita, dos especies hay de pasión, una ciega que aspira al objeto amado sin examen y cautela. La satisfacción presente la incita con tal violencia que solo anhela una dicha y en su duración no piensa. Otra pasión hay, prudente, reflexiva, Doña Pepita la interrompt, refusant d'entendre la description de cette seconde forme d'amour et conclut de façon péremptoire quien ama es el corazón, amigo, no la cabeza. Doña Clara et Don Basilio interviennent dans la conversation pour défendre cet amour raisonnable qui dure longtemps et dont ils sont l'exemple. Pour Doña Clara, el corazón debe siempre hacer la elección a gusto de ella, la cabeza, ce qui est une façon d'affirmer que la raison doit prévaloir sur les sentiments. Un amour fondé sur une véritable connaissance de l'autre est la garantie d'un amour durable. Don Basilio dit « sino el placer luego pasa y el desabrimiento queda ». Don Eugenio revient sur cette forme d'amour en l'inscrivant dans le temps long du mariage. Il parle de estimación duradera. Le point de vue qu'il expose ensuite est très représentatif de l'idéologie illustrada, dans la mesure où il met l'accent sur les qualités humaines et l'intelligence, seules capables de donner naissance à un cariño más racional y de mayor permanencia. Il n'est donc pas question de passion mais d'affection, et la beauté et la jeunesse n'ont pas entré en ligne de compte dans ce sentiment, contrairement à ce que pense Doña Pepita, avec l'insouciance et la frivolité de son âge. C'est sur les apparences que Doña Pepita veut faire son choix, car elle vit dans l'instant, sans envisager toutes les conséquences de ses décisions, alors que le mariage est un sacrement indissoluble. Ce point de vue est incompatible avec la position de Don Eugenio, et malgré ses efforts, il ne parvient pas à la faire évoluer. C'est pourquoi il renonce à la jeune fille, conscient que no seríamos felices con genios tan encontrados. Et il arrive donc, par un cheminement différent, à la même conclusion que Don Luis dans la Morrigata, qui avait jugé que Don Claudio et Doña Inés étaient trop différents pour pouvoir suivre.